Alors, je vais donner la parole à présent à Bioral Tung, qui est professeur au département de philosophie de l'UDM et travaille principalement sur l'éthique des relations internationales, c'est des domaines en philosophie qui sont prospères actuellement et en pleine expansion. C'est le cas de l'éthique des relations internationales, comme de la bioéthique d'ailleurs, qui est un domaine riche. Et privilégiée aujourd'hui, et elle a publié de nombreux articles et chapitres sur cette partie de l'éthique, mais notamment un ouvrage coécrit intitulé « Enjeux et défis contemporains du cosmopolitisme ». C'était en 2009, un ouvrage que tu as dirigé avec Nutens. Elle s'intéresse également aux enjeux de justice sociale dans le domaine de la santé publique globale, ainsi qu'aux perspectives féministes en philosophie politique appliquée. Et puis, je voudrais souligner que Rioa et Rioa Tung est l'exemple même du philosophe ou de la philosophe qui n'ignore pas le terrain, qui n'ignore pas le monde non idéal, avec notamment un projet recherche sur la santé qui prendra forme à Haïti en 2013.
Merci beaucoup, Marc-Antoine. Alors, je vais commencer mon intervention en remerciant vraiment l'ensemble des chercheurs, que ce soit des professeurs invités ou des étudiants, maîtrise, doctorat, qui ont fait du CRIOM ce que le CRIOM est devenu, c'est-à-dire un centre privilégié d'échange intellectuel qui, moi, à titre de professeur, membre associé du CRIOM, m'a nourri véritablement tous les jours pendant les 10 dernières années. Et justement, j'ai eu le déplaisir de devoir manquer la première séance ce matin parce que je devais régler des urgences administratives, notamment avec Daniel Weinstock, avec qui j'avais une conversation téléphonique au moment où Rissa Saint-Louis, il me demandait de vous transmettre encore une fois ses salutations, ses remerciements et de l'excuser de son absence puisqu'il devait, il avait prévu ce déplacement depuis 6 mois déjà. Alors je remercie en particulier aussi les invités de près ou de très loin, qui nous honore avec votre présence aujourd'hui. Et pour ce qui est donc du sujet de mon intervention, je n'aurai pas l'occasion de rebondir sur le texte comme tel de Alain Renaud, que j'ai trouvé remarquable, qui pose des questions absolument fascinantes, mais auquel je n'estime pas avoir l'expertise pour pouvoir rajouter une contribution réellement pertinente à mon tour. Par contre, je vais rebondir sur certains commentaires qui ont été exprimés par Alain Renaud, il me semble, dans un des panels hier, également certaines questions un peu implicites qui étaient exprimées à travers certains commentaires que j'ai entendus également pendant la journée d'hier, et ne serait-ce que parce que certaines des réflexions de Jocelyn conduisent également vers ce sujet-là. Et je vais tout simplement me concentrer sur un débat qui a présentement lieu, qui concerne donc le rapport de la théorie idéale et de la théorie non idéale dans le giron des philosophies, mais qui peut également évidemment se traduire par cette espèce de relation tendue, cette articulation complexe, problématique entre théorie idéale et théorie non idéale, entre les philosophies et les autres disciplines, pour pouvoir donc conclure cette séance avec mon grain de sel. Et j'ai une très très mauvaise capacité de juger le temps. Alors,
j'ai mis un système en place.
Très bien. Alors, je vous dirais qu'initialement, je n'ai pas l'intention de lire mes deux textes que j'avais, qui sont des publications, des communications récentes que j'ai présentées en anglais dans le Canada anglais depuis quelques mois. Je n'ai pas l'intention de les lire au complet. J'avais juste besoin de consulter certaines notes pour me rafraîchir un peu la mémoire. Le plan idéal de la contribution aurait été d'avoir une dimension un peu didactique, de vous parler, de vous expliquer un peu l'état des lieux de ce débat très, très, très actuel sur la théorie idéale non idéale, et ensuite peut-être d'illustrer ma position privilégiée en vous racontant un peu le genre de travail que justement mon collègue Matthew Hunt, qui présentait ce matin même, et moi-même conduisons dans le domaine de l'éthique des relations internationales à la lumière d'une certaine conception d'une approche non idéale dans le domaine des théories de justice globale appliquées dans le domaine des soins de santé, appliquées au domaine des relations internationales. Je doute extrêmement de pouvoir me rendre même au bout de mes remerciements et de ces préliminaires, et donc, voilà. Alors voilà, je saute tout de suite, je rentre dans le vif de la matière. Alors, encore une fois, il y a une dimension un peu didactique pour la première portion de ce commentaire. Alors, qu'en est-il de cette fameuse distinction théorie idéale-non-idéale? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment un débat qui est très, très, très vivant. vivant, très dynamique en ce moment dans le domaine de la philosophie politique anglo-américaine en particulier. Et donc, il reste à savoir si effectivement la distinction théorie idéale non idéale sera une distinction terriblement, terriblement cruciale pour l'avenir de la philosophie politique contemporaine. Je n'en sais trop rien parce que jusqu'à un certain point, je veux dire, cette question est vieille comme la philosophie. Et c'est le rapport entre théorie et praxis, entre éthique et politique, moralité et politique, etc. Mais je trouve quand même que la reformulation contemporaine, la réhabilitation contemporaine de ce débat-là, du statut épistémologique entre de la théorie idéale ou de la philosophie par rapport à d'autres disciplines, rafraîchit quand même la carte des positions épistémologiques ou des questions épistémologiques qu'il vaut certainement la peine de se rappeler de temps à autre, ne serait-ce que parce que ce débat peut également orienter certaines approches dans les 10 prochaines années à venir dans le domaine de la philosophie politique appliquée contemporaine et dans toutes sortes de domaines d'application également. Alors, pour tout vous dire, je préconise plutôt une approche œcuménique, c'est-à-dire que, bien que le débat m'intéresse vivement, bien que je m'y ressource, dans la mesure où ça me permet de clarifier mes propres présupposés épistémologiques et méthodologiques, je n'en fais pas tellement non plus un débat qui extrêmement constitutif dans mon cas. Je préfère une approche œcuménique, c'est-à-dire je crois qu'il y a des raisons valables pour préconiser des approches plus indépendantes, plus abstraites, plus conceptuelles, plus idéalistes dans le domaine de la philosophie. De même, je crois qu'il y a d'excellentes raisons pour en appeler à des échanges interdisciplinaires ou à des applications plus non idéal de la philosophie appliquée dans divers domaines. Je préconise également des échanges interdisciplinaires, tout simplement parce qu'il est vrai que j'ai quand même petit parti pris pour des approches non idéales, mais cela dit, je ne pense pas que ce petit parti pris pour des approches non idéales devrait invalider le statut épistémologique tout à fait défendable et tout à fait précieux et fondamental de la philosophie dite idéale, plus abstraite dans ses énoncés, dans sa façon de penser les choses, les expériences de pensée faisant partie de ce genre de démarche également. Même si ce n'est pas la démarche que je préconise moi-même dans mes propres travaux, je pense que ce genre de philosophie mérite d'être défendue. Et donc, pour ce qui est de ce fameux débat, alors, encore une fois, c'est une reprise, à mon avis, une reprise contemporaine de la relation problématique en théorie et pratique, ou en moralité politique également. Et donc, dans le débat contemporain, la reformulation de cette distinction théorie idéale-non idéale retrouve sa genèse dans les écrits de John Rawls, et essentiellement, vous vous souviendrez que chez John Rawls, la théorie idéale prend pour acquis qu'on accepte une certaine forme d'idéalisation des acteurs, des agents à propos desquels on pense des théories de la justice, et on prend pour acquis qu'ils ont ces caractéristiques idéales qui consistent à se conformer au principe de la justice, tandis que la théorie non idéale tient compte des principes équitables, des mesures de sanctions par rapport à des agents qui ne se conforment pas pour toutes sortes de raisons, notamment parce que parfois ces agents sont défavorisés par des circonstances défavorables et qui ne peuvent pas donc se conformer au principe de justice. Mais cette fois-ci, je vais donc élargir le débat et je vais partir de cette distinction théorie idéale chez Rawls pour tout simplement la rendre plus large parce que tel a été le mouvement dans ce débat-là entre théorie idéale et non idéale, les nombreux philosophes et politologues qui se sont investis de ce débat ont cherché à élargir également les paramètres de cette distinction théorie idéale et non idéale. Et donc, dans un premier temps, il y a des positions sceptiques. Et les positions sceptiques sont justement des positions qui ont été exprimées par un ensemble d'auteurs, souvent qui proviennent justement de la science politique, qui ont été formés en science politique. Des gens, par exemple, comme Colin Farrelly, des gens comme David Miller. Il y a aussi des gens comme Amartya Sen, mais qui, comme chacun sait, a été formé dans le domaine de l'économie et non pas nécessairement dans le domaine de la philosophie. Ils ont tous, chacun à leur tour, exprimé des points de vue un peu sceptiques par rapport au statut épistémologique des conceptions transcendantales de la justice. Donc, ils ont, d'une certaine façon, remis en doute la pertinence des théories purement idéales de la justice au nom d'une certaine méthodologie qui va mettre l'accent sur l'importance de prendre les faits saillants du monde réel dans lequel on doit déployer les principes de justice au sérieux, et donc la dépendance aux faits dans leur méthodologie De même que, par exemple, dans d'autres instances, par exemple, dans le cas de la position sénienne, l'idée que nous n'avons pas besoin d'un point de vue transcendantal pour réfléchir sur la justice, nous pouvons définir les principes de justice à partir d'un jugement comparatif qui peut guider donc nos jugements normatifs au sujet des situations de justice ou d'injustice dans le monde réel dans lequel nous devons coexister. On se souviendra également de l'intervention, de la contribution très intéressante de quelqu'un comme Honora O'Neill, qui, bien avant, en fait, ce débat, avait mis en place une distinction très, très pertinente entre l'abstraction et l'idéalisation, en nous rappelant que l'abstraction conceptuelle sera toujours un moment nécessaire dans toutes les formes de théorisation, et ça, on n'y échappera jamais. Par contre, ce dont il faut peut-être parfois se méfier, c'est la portion d'idéalisation. Et l'idéalisation, c'est quand, à travers ce travail d'abstraction, on prête des traits idéaux parce qu'on prétend qu'il s'agit d'attributs fondamentaux aux acteurs de qui on pense. On prétend rattacher certaines caractéristiques idéales à des faits saillants, etc. Et cette forme d'idéalisation peut parfois effectivement introduire des présupposés qui sont proprement idéologiques. Cette critique a été reprise par des auteurs féministes et par d'autres auteurs également, des gens comme Anne Phillips, des gens comme Charles Mills notamment, qui dans une certaine réinterprétation féministe des problèmes de l'idéalisation excessive ont rappelé qu'à bien des égards, parfois le problème, le danger avec les théories idéales, c'est que sous prétexte encore une fois d'attribuer des prédicats neutres dans le processus d'abstraction, en fait ce qu'on introduit, ce sont carrément des préjugés idéologiques qui sont tout à fait enracinés dans des présomptions qui sont historiquement, culturellement, sociologiquement situées. Et donc, à cet égard-là, juste une petite parenthèse, je pense également que les contributions féministes seront incontournables dans les 10 prochaines années, surtout en regard de la critique épistémologique absolument formidable qu'elles ont pu introduire dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines et en particulier dans le domaine de la théorie politique, de l'économie et de la philosophie politique également. Et donc, il y a également d'autres formes d'expression critique contre les théories purement idéales. On retrouve une telle expression chez un penseur comme Robert Goodin, par exemple, qui reconnaît tout à fait le caractère absolument essentiel des théories idéales de la justice pour nous permettre de nous situer, de situer notre point de vue normatif qui nous permet ensuite de critiquer les injustices de ce monde pour pouvoir justement guider les jugements comparatifs et normatifs, etc. Cela dit, ce que Goodin cherche à nous prévenir de, c'est le réflexe de fétichiser, si je peux m'exprimer ainsi en français, le risque de ce fétichisme des théories idéales qui nous font perdre de vue le caractère absolument essentiel également de toutes les propositions intermédiaires qu'il appelle des « second best options ». Parfois, justement, les aspirations utopiques, les aspirations idéales que l'on a certainement le droit de poursuivre à titre heuristique ou en tant qu'idéaux régulateurs ne doivent pas pour autant nous distraire des théories intermédiaires plutôt d'un idéal qui nous permet des approximations de justice, mais qui, dans le véritable monde ici-bas, dans les circonstances bien imparfaites de notre monde idéal, non idéal, sont probablement les meilleures et les seules approximations possibles de nos idéaux régulateurs. Et donc, par ailleurs, il y a un autre camp qu'on pourrait donc classer parmi les défenseurs des théories idéales, et il y en a un en particulier qui nous vient à l'esprit, c'est Jay Cohen, évidemment, qu'on va pouvoir classifier, par exemple, comme incarnant une certaine conception platonicienne de la justice. Lui-même, de toute façon, cite à travers ses écrits des références explicites à Platon pour expliquer son point de vue. Et donc, dans la pensée de Jay Cohen, la philosophie doit se cantonner à la théorie purement idéale. Pour toutes sortes de raisons, il va entreprendre une vaste et formidable critique du constructivisme kantien qu'on n'a absolument pas le temps, évidemment, de répéter ici. Mais l'idée consiste essentiellement à reprocher à Rawls de s'être limité à des théories non idéales de la justice et d'avoir perdu de vue que, en fait, au niveau de la théorie idéale, il y a une corrélation conceptuelle nécessaire entre justice et égalité, et John Rawls, tout ce qu'il propose en retour, ce sont plutôt des politiques publiques efficientes pour guider le bon gouvernement, etc. Mais tout ça pour dire que, donc, il y a ces penseurs-là, comme Cohen, jusqu'à un certain nombre, on pourrait même qualifier Peter Singer comme étant une sorte de penseur de la théorie idéale, évidemment, jusqu'à un certain point, c'est pas si vrai que ça, parce que, par exemple, quand on prend l'exemple canonique de l'obsession de Peter Singer sur le problème de la pauvreté dans le domaine de l'éthique des relations internationales, à travers les 4 décennies qu'il a consacrées au problème de la pauvreté de 1972 jusqu'à aujourd'hui, on se rend bien compte que ses plus récents ouvrages tiennent compte de la psychologie morale, tiennent compte des problèmes d'action collective. Donc, ce serait peut-être un peu faux de vouloir le cantonner dans l'ensemble des philosophes qui défendent la théorie purement idéale, mais toujours est-il qu'on aura compris intuitivement que Peter Singer part à partir de point de vue, disons, presque transcendantal de la justice pour ensuite en déduire un ensemble de prescriptions normatives. Il y a ensuite une position intermédiaire dans laquelle je me sens un peu plus à l'aise. C'est une position intermédiaire qui est représentée notamment par des gens comme David Estlin, Pablo Gilbert, des gens comme Valentini, IP, etc., et d'autres encore. Mais essentiellement, cette position consiste encore une fois à reconnaître le statut épistémologique légitime des théories idéales, mais à reconnaître également, et à reconnaître ce faisant, deux problèmes avec la critique qui émane des défenseurs de la théorie non idéale. Une première critique qu'on pourrait effectivement énoncer de la manière suivante, c'est que, à force, par exemple, quelqu'un comme Amartya Sen, qui préfère renoncer à des théories transcendantales de la justice pour s'en remettre à des théories comparatives de la justice, la question est la suivante, la question qu'on peut effectivement objecter à Amartya Sen, c'est que, mais pour pouvoir guider encore une fois le jugement normatif à travers ces comparaisons, encore faut-il peut-être s'ancrer, sans même s'en rendre véritablement compte, à quelque chose qui ressemblerait à des normes qui échappent donc aux faits, à l'empirie, etc. Une autre critique qu'on peut énoncer, c'est une critique qu'on peut énoncer notamment à des penseurs comme David Miller ou d'autres encore, à force de vouloir vraiment, comment dire, dénoncer la théorie purement idéale sous prétexte que les seules théories qui sont véritablement pertinentes doivent être ancrées dans une méthodologie empirique, c'est de commettre d'une certaine façon le risque d'un sophisme naturaliste, c'est-à-dire de déduire ce qui doit être à partir de ce qu'on croit être. Et à travers ces entreprises qui se prétendent être descriptives, plus neutres, parce qu'elles seraient empiriquement fondées, le problème, c'est qu'on risque d'introduire, encore une fois, des biais idéologiques à travers cette prétention soi-disant axiologiquement neutre de la description des faits saillants du monde non idéal. Et donc, pour répondre à ce genre d'objection, on pourrait toujours faire valoir que, contrairement à ce que Cohen a pu dire contre Rawls, en fait, la position de Rawls, qui me semble tout à fait intéressante, c'est que pour comprendre Rawls, encore faut-il se souvenir que la position méta-éthique de Rawls est une position cohérentiste, au sens où effectivement il renonce à une certaine conception des vérités transcendantales, des vérités, des certitudes scientifiques dans le domaine des connaissances morales, etc. Mais le cohérentisme de John Rawls s'appuie également sur la méthode de l'équilibre réflexif. Et si on adhère, par exemple, à une interprétation plus élargie de quelqu'un comme Norman Daniels, l'équilibre réflexif est censé justement nous permettre de dépister les biais idéologiques à travers justement le processus de cet équilibre réflexif. Et donc, par conséquent, je ne vois pas trop... tout ça pour dire qu'on peut, chez Rawls, sauver la portion de la théorie idéale, à la condition qu'effectivement on renonce peut-être à une certaine conception transcendantale, la vérité morale, et en même temps s'en remettre à une méthode, une méthodologie tout à fait particulière qui nous permette aussi de nous prémunir des biais normatifs qui pourraient s'introduire inconsciemment dans nos descriptions des faits. Et juste pour conclure là-dessus, la position intermédiaire personnellement, je souhaite consacrer mes 10 prochaines années de recherche. Encore une fois, je préconise une approche écuménique. Ce n'est que ma préférence subjective. Mais ce sont des approches qui empruntent ces voies-là. D'abord, encore une fois, chez John Rawls, il me semble qu'une nouvelle relecture de The Law of Peoples devrait nous rendre plus attentifs à la pertinence des utopies réalistes. Je vais tout simplement m'arrêter là. La deuxième chose, chez Godin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher chez l'idée, dans son idée, d'aller découvrir le potentiel extrêmement fécond des second best options. Dans les travaux, par exemple, de mon collègue Pablo Gilbert, l'importance de penser les critères normatifs dans des contextes de transition de monde non idéal vers des idéaux régulateurs. Et m'inspirant, par exemple, des travaux tels que ceux de Margalit, de s'intéresser sur les critères normatifs qui devraient guider les trade-offs pour au moins éviter, si tant que faire se peut, les compromis qui seraient pourris, toujours pour concéder, comment dire, le terrain vers des préoccupations non idéales sans sacrifier nos idéaux régulateurs. Merci.
Merci.